Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Est-ce vraiment parce que son emploi du temps ne le lui permettait pas ou parce qu'il ne voulait pas s'afficher aux côtés de Donald Trump ? Toujours est-il que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, ne s'est pas rendu à la Maison-Blanche lundi dernier alors qu'il y était convié par le président des États-Unis pour une réunion en compagnie d'autres leaders de la tech américaine. Si la question se pose, c'est parce que les relations entre Zuckerberg et Trump ne sont pas au beau fixe depuis que le premier a fait connaître son hostilité au décret anti-immigration du second. Et il n'est pas le seul. Depuis la transition politique aux États-Unis, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft multiplient les critiques contre la nouvelle administration. Dernière en date, leur condamnation de l'abrogation de l'accord sur le climat. Alors à première vue, de telles prises de position sont réconfortantes, elles témoignent d'une hauteur de vue de la part d'entreprises, pas seulement tournées, semble-t-il, vers la recherche du profit, mais également vers celle du bien commun. Mais intervenir de cette manière sur le terrain politique relève-t-il vraiment de leur responsabilité? Les multinationales doivent-elles se mêler de politique? C'est la question que nous posons ce soir à trois invités. Cécile Renoir, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, professeur au Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. Vous dirigez un programme de recherche à l'ESSEC. Vous travaillez en particulier sur la responsabilité éthique et politique des entreprises, qui a conduit d'ailleurs à l'écriture d'un ouvrage aux éditions de l'Atelier. C'était en 2013. Éthique et entreprise. Pour discuter avec vous, Gilles Babinet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes entrepreneur. Vous avez créé plusieurs startups. Ancien digital champion. Digital champion, on peut le dire à la française, de la France, auprès de la Commission européenne pour y défendre les enjeux du numérique. Votre dernier ouvrage, c'était aux éditions Le Passeur l'an dernier, Transformation digitale, l'avènement des plateformes. Et puis notre troisième invité, Ali Laidi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste de la guerre et de l'intelligence économique. Vous avez écrit une histoire mondiale de la guerre économique chez Perrin. Là aussi, c'était en 2016. Alors j'aimerais d'abord avoir à vous trois votre avis sur ces prises de position récentes aux États-Unis d'un certain nombre d'entreprises. J'ai cité les fameux GAFAM. Enfin, c'était pas exclusivement des entreprises des nouvelles technologies, mais qui ont condamné et le décret anti-immigration de Donald Trump et sa décision d'abroger donc l'accord climat pour les États-Unis. Est-ce que vous considérez qu'en faisant cela, ces entreprises sont restées exclusivement sur le terrain économique parce que c'était des mesures qui pouvaient leur être défavorables, ou bien est-ce que ce sont des actes purement politique, Cécile Renoir?
D'une part, je pense que les entreprises, et notamment multinationales, ne sont pas simplement des organisations économiques, mais qu'elles sont bien de facto des institutions politiques. D'abord parce que on peut dire que leur puissance économique leur confère une puissance, une capacité à influer sur les décisions des gouvernements. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que c'est plutôt une bonne chose que les entreprises poussent Trump, par exemple, à respecter l'accord sur le climat. Cela dit, évidemment, c'est tout à fait à double tranchant, parce que ce rôle, ce pouvoir politique, il peut aussi s'exercer dans un sens lié à des intérêts privés à court terme. Et puis, moi j'aime bien parler de la responsabilité politique des entreprises à un double titre, en se disant que d'un côté, cette responsabilité politique, elle a trait aux politiques au sens large, lié à ce que vous rappeliez, la question du bien commun. Et là, on peut dire que les entreprises ont sans doute une mission partagée avec d'autres acteurs vis-à-vis de ces sujets.
Est-ce que vous diriez que dans ce cas précis, elles ont fait preuve de responsabilité politique?
Oui, de ce point de vue-là, tout à fait. Mais je pense que par ailleurs, il faut aussi regarder le politique sous l'angle alors de ce que Ricoeur appelait l'imputation, l'autre versant de la responsabilité, c'est-à-dire demander aussi à ces entreprises de rendre des comptes pour leurs effets sur un certain nombre de, dit dans le jargon des entreprises, des parties prenantes. Et je pense qu'on peut décliner du coup cette responsabilité politique comme des enjeux liés aux conditions d'une juste création et d'un juste partage de la valeur économique et financière, des questions de relations internes et externes avec des salariés, mais aussi des chaînes de sous-traitance. Et enfin aussi, la question de savoir comment ces entreprises impactent des territoires.
Alors, vous derrière, nous donnez presque un plan de discussion pour l'émission qui va nous conduire jusqu'à 19h comme chaque soir. Je voudrais poursuivre mon tour de table. Gilles Babinet, est-ce que vous partagez peu ou prou ce que vient de dire Cécile Renoir? Est-ce que vous avez été peut-être aussi surpris par ces prises de position dont on se dit a priori qu'elles sont pas si habituelles que ça?
C'est des décisions qui ont certainement un sens politique fort, mais qui défendent aussi, je crois, il faut l'admettre, l'intérêt bien compris de ces entreprises. C'est-à-dire, si je prends précisément les deux points que vous évoquez, Il y a une longue bataille sur l'immigration parce que on manque de capital humain dans la Silicon Valley et ça fait au moins 10 ans que ça dure. C'est probablement d'ailleurs l'un des facteurs qui pourrait aboutir à une relocalisation de la Silicon Valley dans d'autres lieux. Aujourd'hui, ça devient compliqué d'arriver à continuer à développer cet espace. Et donc, depuis très longtemps, il y a une bataille qui existait déjà sous la précédente administration pour essayer de faciliter l'immigration des talents dans la Silicon Valley. À l'égard de l'environnement, tout le monde a à l'esprit le fait qu'il y a quelques années, on accusait à la fois Google et Apple l'un de consommer de l'énergie qui venait de sources carbonées et l'autre de faire des ordinateurs sans se soucier de l'origine des terres rares. Et ils ont compris que par rapport au public auquel ils s'adressaient, il était impératif d'avoir une identité différente. Et donc ils ont profondément travaillé là-dessus. On pourrait continuer à citer un certain nombre d'enjeux où leur intérêt bien compris rejoint finalement une vision politique qui est, je dirais, plutôt humaniste. Par exemple, les enjeux de sécurité des iPhones. Apple défend à tout craint le fait qu'ils ne puissent pas eux-mêmes d'ailleurs rompre la sécurité des iPhones. Ils savent bien que si le jour où ils annoncent qu'ils ont autorisé les services de renseignement à rentrer dans les iPhones, on va s'éloigner de leurs produits. Donc je crois qu'il faut essayer de comprendre plus les caractéristiques d'ensemble de ces entreprises que de parler de points qui sont parfois un peu isolés et sur lesquels on pourrait effectivement les mettre assez facilement dans le camp des bienfaiteurs.
Alors justement, sur ces caractéristiques de ces entreprises en particulier, Ali Laïdi, est-ce que vous diriez que justement on est dans une réaction qui est spécifique peut-être à ces entreprises des nouvelles technologies, ou bien est-ce que intervenir dans le champ politique pour les entreprises, vous qui avez écrit donc une histoire de la guerre économique, c'est quelque chose que l'on retrouve justement au fil du temps?
Alors là, ce qu'on voit, c'est plutôt une divergence assez rare dans l'histoire récente des États-Unis entre le projet politique de l'homme ou de la femme située à la Maison-Blanche et le projet économique des entreprises. Jusqu'à présent, c'était plutôt parallèle. Là, on sent bien que l'administration Trump porte un message qui est néo-nationaliste d'un point de vue économique et politique, et que évidemment ça n'arrange pas les affaires des entreprises, et en particulier de ces entreprises, les fameuses GAFA, qui ont pour terrain de jeu le monde entier. Donc bloquer évidemment leurs ressources humaines, ça leur pose un grave problème. Donner l'image des États-Unis avec un certain protectionnisme économique, ça leur pose aussi un problème. Donc elles interviennent. Ce qui est étonnant, c'est pourquoi elles ne sont pas intervenues sur des dossiers beaucoup plus compliqués, beaucoup plus lourd, ce que disait Cécile sur l'éthique, l'engagement, etc.
Mais peut-être est-ce que quand il y a des divergences, est-ce que jusque-là, ça ne se réglait pas plutôt de manière beaucoup plus discrète? C'est-à-dire que les entreprises, enfin les grandes entreprises, on imagine bien qu'elles ont forcément des intérêts, donc elles peuvent faire pression, faire du lobbying sur le pouvoir politique. Et est-ce que là, la différence, c'est pas de l'afficher de manière très publique et très médiatisée?
Parce que c'est nouveau. Reprenez cette séquence. Fin des années 80, deux pays ouvrent la séquence du néolibéralisme. La Grande-Bretagne et les États-Unis avec les penseurs de néolibéraux, Hayek, etc., Friedman. Mmh. Qui ferme cette séquence en ce moment? Cette séquence est en train de se terminer et est fermée par les mêmes protagonistes. Mmh. C'est-à-dire les Anglais qui nous ont fait le Brexit et les Américains qui, à travers l'élection de Donald Trump, est en train de fermer cette vision d'un monde néolibéral totalement ouvert. Donc là, oui, il y a divergence entre des entreprises qui sont mondiales et qui l'assument et un projet politique qui se referme sur lui-même. Mais personnellement, pour revenir à la première question, pour moi, il n'y a aucune différence. On ne peut pas séparer le politique de l'économie quand on a, comme dit Cécile, des acteurs qui ont un impact politique. Je veux dire, ils sont en train de créer notre monde de la communication, ils sont en train de créer notre monde de la santé de demain, ils sont en train de prédire Google qu'on va être demain complètement immortel. Donc c'est de la pure politique, c'est de l'intervention dans la vie de la cité.
Et est-ce que ce qui fait aussi peut-être une des différences, est-ce que ça n'est pas que Alors, je vais parler d'entreprises classiques pour les distinguer hein, de ces entreprises liées aux nouvelles technologies, mais peut-être que dans une entreprise classique, les intérêts de la communauté, quand ils sont protégés par l'entreprise, la communauté, c'est d'abord celle des salariés. Quand on est dans le cas des Google, des Facebook, la communauté, c'est le réseau, et donc elle est beaucoup plus vaste, et donc la responsabilité est beaucoup plus importante.
Ce que vous appelez les stakeholders. C'est le terme. Mais je veux dire, la principale problème des entreprises aujourd'hui, qu'elles soient GAFAM ou autres, c'est pas les salariés. C'est la valeur actionnariale de l'entreprise, donc les actionnaires.
Cécile Renoir. J'allais
dire, et ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure avec, par exemple, cette question de la création de valeur économique, financière. Et là, on sait bien que ces entreprises-là, elles sont dans le collimateur des États à cause des problèmes d'optimisation fiscale, très agressifs, qui conduisent à de l'évasion fiscale aussi caractérisée. Mais là, il y a vraiment un enjeu très fort à regarder, la manière dont elles contribuent au territoire dans lequel elles ont des activités. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que le fait qu'elles soient en lien avec des utilisateurs dans le monde entier, et qu'elles aient profité d'un système international qui leur permettait en fait de transférer le profit vers des zones fiscalement avantageuses. Quand on se dit que le politique, si c'est le souci du bien commun, ça passe par le souci des territoires dans lesquels elles ont des activités. Donc le fait que ce n'est pas à elles de décider pour les citoyens de la manière dont des projets aussi d'éducation, de santé, d'infrastructure soient mis en œuvre. Donc
vous avez dit qu'en fait il y a aussi un décalage entre le discours, l'affichage de position très politique et puis la pratique qui peut être justement en contradiction avec ce discours.
Absolument. Et alors, par rapport à votre question sur la différence avec d'autres types d'entreprises, je ne suis pas sûre qu'il y ait une différence telle quand on pense par exemple aux enjeux de ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondiale, c'est-à-dire les chaînes de sous-traitance. Mmh. Et en l'occurrence, il y a quelques années un certain nombre de scandales, mais je pense que les choses continuent malheureusement. Par exemple, chez un des sous-traitants d'Apple, Foxconn, en Chine, avec des suicides de salariés, des conditions de travail très difficiles. Et là, on sait bien, et d'ailleurs ça implique de regarder la responsabilité de ces entreprises et aussi des consommateurs que nous sommes, pour se dire, est-ce qu'il y a un partage équitable de cette valeur créée par ces entreprises ?
Gilles Babinet, pour vous, la nature de ces entreprises ne leur donne pas une responsabilité politique différente des autres entreprises ?
Non, je ne crois pas, effectivement. En fait, ce qui, je crois, est très intéressant en sous-jacent dans ce débat, c'est finalement l'importance, la prise qu'ont les technologies sur le débat politique. Et je voudrais m'expliquer. Vous avez évoqué la révolution conservatrice, on est à peu près en 1984, 1985. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Il y a eu un phénomène absolument majeur. Il y a eu l'électronification des marchés financiers. Mmh. Au même moment. Et alors, la question que je voudrais poser, personnellement, je pense que la réponse est dans la question, c'est ce projet de globalisation, est-ce qu'il est en conséquence de la technologie ou est-ce qu'il initie la technologie ? Moi, je crois qu'il est en conséquence de la technologie.
Moi, je pense qu'il est pensé avant. Il est pensé avant par les penseurs néolibéraux.
Il est de facto.
Il est pensé dans un monde où on dit, par rapport aux penseurs classiques qui disent le marché est le lieu de l'échange où chacun des acteurs possède le même niveau d'information, les néolibéraux arrivent et disent non, pas du tout. Le marché, c'est pas ça. Le marché, c'est la concurrence. D'abord et avant tout.
Tout à fait.
Donc l'affrontement des uns des autres. Et ensuite, pour moi, la technique vient propulser, booster encore.
Alors,
plus
je vais l'exprimer différemment. C'est-à-dire que il a été évidemment pensé avant, depuis Tocqueville, si vous voulez, mais je crois que la mise en œuvre du projet, c'est une mise en œuvre qui est portée par la technologie. Et j'irai plus loin, c'est que la globalisation a été portée par la technologie et la déglobalisation est aussi portée par la technologie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que aujourd'hui, la grande caractéristique du monde dans lequel on rentre, c'est qu'on est capable de consolider la valeur localement. Il y a un projet qu'on appelle de reshoring aux États-Unis qui n'a pas été porté par Trump, qui a été porté par Barack Obama lors de son premier mandat. Il a dit, on va aider les entreprises américaines à calculer comment elles peuvent ramener la valeur. Et notamment parce que les technologies se sont largement répandues, on est capable d'avoir des robots qui remplacent des humains et qui font qu'on est hors coûts sociaux, compétitifs par rapport n'importe où dans le monde. Voilà. Et ça, c'est des conversations que moi j'ai avec des fabricants d'usines notamment, qui disent une usine de pneus, c'est 20 à 25 fois de moins de personnes en l'espace de 25 ans. Donc là où vous aviez 1000 personnes auparavant, vous avez 30, 40 personnes aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui induit une démondialisation. C'est-à-dire que les pays se rendent compte de ça. Il y a à Davos, il y a 2 ans, il y avait Jack Ma qui était venu, ou l'année dernière, qui avait dit cette chose extraordinaire, qui avait dit « Vous êtes marrants, vous nous tombez dessus, on est des Chinois ». Mais c'est pas nous qui avons inventé la mondialisation. C'est pas nous qui sont mis à produire pour le monde entier. C'est vous qui êtes venu nous chercher. C'est vous qui avez parlé des projets d'usines Fabless, etc., etc. Et je trouve extrêmement intéressant cette capacité de la technologie à induire des projets politiques. Et c'est ce que l'on voit au travers des fondateurs des GAFA qui ont une vision du monde totalement objectiviste. Vous savez qu'Ayn Rand, c'est le 2e livre le plus vendu aux États-Unis. C'est le livre de chevet de la Silicon Valley. Et je trouve que c'est très intéressant d'arriver finalement à post-induire une philosophie à partir d'une vision technologique.
Ayn Rand, qui, je le précise au passage, fera l'objet d'une série dans notre grille d'été sur France Culture. Il y a donc cette approche politique particulière liée aux nouvelles technologies, qui donc ces entreprises, alors elles sont-elles liées à l'idée d'un projet politique d'abord? Est-ce qu'elles sont nées suite à ce projet? C'est vrai que c'est une discussion très très intéressante. En tout cas, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que ce sont des acteurs qui semblent devenir à ce point majeur, qu'un pays, par exemple, comme le Danemark, a eu cette idée étrange, a priori, en janvier dernier, d'ouvrir une ambassade auprès de ces fameux GAFA. Et je vous cite simplement ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères danois, Anders Samuelsen. Google, Apple ou Amazon doivent être considérés comme de nouvelles nations avec lesquelles il faut donc entretenir des relations diplomatiques. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche-là? Est-ce que c'est prendre acte d'une situation? Ou bien est-ce que c'est contribuer à donner une importance et un rôle à des entreprises qu'elles n'ont pas pour l'instant? Cécile Renoir et ensuite Ali Laïdi.
Oui, moi je pense que c'est très problématique. Alors qu'après, il y ait aussi, là encore, de facto, des relations très fortes entre, d'ailleurs on le sait, les dirigeants des grandes entreprises dont le siège est dans tel ou tel pays et les dirigeants de ces États, c'est évident. Qu'il y ait aussi, du point de vue, même quand on parle de l'aide publique au développement en France, l'aide est supposée être déliée des intérêts économiques français, mais de facto, l'aide est tout à fait liée. Et donc, on voit bien qu'il y a pour les États, en tout cas occidentaux, une volonté d'avoir une forme de contrôle ou à la fois de soutien aux intérêts économiques en se disant, ben voilà, c'est aussi une manière de défendre des intérêts nationaux. Alors, voilà,
Mais est-ce que c'est les défendre ou bien est-ce que ça n'est pas aussi donner une importance peut-être un petit peu surdimensionnée
à... voilà, absolument. Et alors, moi, ce que je pense, c'est que précisément, là, il y a exercé de la part de nos États un contrôle très fort. Du point de vue sur ces entreprises, ces grandes entreprises, dont on vient de dire qu'elles ont un pouvoir absolument considérable aussi pour façonner une certaine représentation du monde, une certaine manière de concevoir d'ailleurs l'action politique, et que du coup, eh bien, nos États ont la capacité, s'ils le voulaient, à davantage promouvoir des régulations, des réglementations contraignantes à l'échelle internationale. Et c'est quand même, si on prend l'exemple des relations commerciales, du droit des investissements ou autres, c'est quand même absolument hallucinant, y compris par exemple, le Conseil constitutionnel en France retoque dans la loi Sapin le reporting pays par pays demandé à l'égard des entreprises pour regarder justement comment elle crée de la valeur, comment cette valeur est partagée entre les différents États où ces entreprises ont des activités. Le Conseil constitutionnel nous dit que ça va nuire à la compétitivité des entreprises françaises. On se dit que c'est quand même un recul par rapport à la défense des droits fondamentaux. Donc ça plaide, à mon sens, pour, de la part des États de la planète aujourd'hui, une défense forte de l'élévation des standards à l'échelle mondiale en matière de droits humains et de droits de l'environnement.
Juste petite parenthèse par rapport à la loi Sapin. J'imagine que c'est celle du 21 février dernier qui instaure un devoir de vigilance pour les grandes entreprises afin, disait non. À l'époque Michel Sapin, c'est pas celle-là?
Non, c'est pas celle-là.
Pardonnez-moi alors, je pensais
l'autre
que c'était
celle-là. C'est celle de décembre, sur la transparence de la vie économique. Ouais.
Sur la transparence.
La loi sur le devoir de vigilance, elle est très bien. Ouais.
Enfin, peut-être qu'on va y venir dans l'étape d'après. Ouais. Alors, il y a eu beaucoup de lois Sapin dans le précédent quinquennat. Allez, Lady.
Moi, oui, pourquoi pas, pour répondre très clairement à votre question, il faut acter le fait que ce sont des objets politiques, ces entreprises-là. À partir du moment où le Danemark décide d'ouvrir une ambassade là-bas, ça veut dire que c'est des objets politiques. Mais dans ces cas-là, il faut revoir entièrement notre dispositif philosophique politique. Je veux dire que, à partir du moment où on est resté sur les trois pouvoirs, Montesquieu, le pouvoir exécutif, législatif, et etc., judiciaire, il faut y ajouter le quatrième pouvoir, l'entreprise. Et dans ces cas-là, il faut trouver les moyens de faire en sorte que ces quatre quatre pouvoirs ensemble se neutralisent. Parce que là, notre dispositif de réflexion philosophique n'est pas à la hauteur de ce monde qui est en train de radicalement changer. Alors faisons en effet de ces entreprises des objets politiques, mais dans ces cas-là, réfléchissons à la manière de neutraliser aussi ce pouvoir.
Mais alors attendez, pour poursuivre sur cette réflexion, je vois à peu près comment le pouvoir exécutif peut contrôler, peut réguler justement ce pouvoir économique en votant des lois, en obligeant par exemple les entreprises à payer leurs impôts là où elles ont des activités. Mais ça serait quoi la relation inverse, c'est-à-dire en quoi l'entreprise pourrait servir de contre-pouvoir finalement à un pouvoir exécutif ou un pouvoir judiciaire?
Pour l'instant, c'est carrément ça. Je veux dire, aujourd'hui, on dit que le politique n'a plus aucun pouvoir et que c'est l'entreprise qui a le pouvoir, etc. Donc, ce serait plutôt en faveur en ce moment de l'entreprise. Toute la question, c'est de revenir sur 300 ans de réflexion de libéralisme, le fameux laisser-faire. Est-ce que aujourd'hui, postulant du fait que les entreprises sont des objets politiques, est-ce qu'on peut encore continuer à dire on va totalement les laisser faire? Non. Non, elles doivent être régulées par rapport aux trois autres pouvoirs.
Mais quand on voit par exemple Bruxelles qui engage une procédure contre Google, est-ce que c'est pas la preuve que quand il y a la volonté politique, finalement la souveraineté du politique, elle prime sur la souveraineté économique du cabinet.
Bon, d'abord, on est dans une période très particulière parce qu'on ne sait pas encore si Madame Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, va effectivement passer à l'acte et émettre des sanctions. Ça n'a pas été fait, en tout cas pour certaines entreprises. C'est toujours en attente et on est tous un peu suspendus à ses lèvres. Mais je crois que, pour répondre à la question précédente sur cette affaire d'ambassadeur, il me semble que la posture actuelle, c'est une posture de réel politique. Et je rejoins à peu près ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt le sentiment que on est dans une période de forte transition, c'est une période de désordre politique, et que il faut que les corps politiques se réapproprient ça. Un des grands enjeux que j'observe, sur lequel je travaille un peu, c'est le fait que finalement, cette révolution n'est pas inclusive, et l'une des indices qui me laisse penser qu'elle n'est pas inclusive, c'est parce que on n'est plus capable de capter la richesse que créent ces entreprises. Donc, selon certains travaux, on pourrait penser que vous avez 18 points de PIB qui disparaissent dans les paradis fiscaux du fait de la virtualisation. Et ces 18 points, c'est à peu près ce qu'il nous faudrait pour financer l'inclusion. Faire en sorte que les gens soient formés, entre autres, à ces technologies, etc., etc. Donc là où auparavant on avait un modèle Fordiste qui était naturellement inclusif, parce qu'on avait besoin de ses bras et on avait besoin de bras qui soient formés, là vous avez un modèle qui est très exclusif, c'est-à-dire qu'avec très peu de gens, vous arrivez à automatiser des tâches à très haute volée et vous pouvez laisser beaucoup, beaucoup de monde sur le côté. Ça, c'est une posture politique pour moi. C'est un choix délibéré qui consiste à dire, et qui est une des conséquences de la révolution conservatrice, consiste à dire, finalement, on a des millions, peut-être des milliards de gens qui restent à l'extérieur de ça. On est capable de faire des petits tas de fortunes, de capital non productif un peu partout, mais qui, à la fin, pèsent énormément. Je crois que les paradis fiscaux sont aussi une conséquence de la révolution digitale, hein, de cette capacité d'électroniser les marchés dont je parlais tout à l'heure. Et ce dérèglement, il a commencé avec la révolution conservatrice, donc c'est effectivement un postulat politique que je suis en train d'énoncer. Il faudra le refermer un jour, parce qu'on a des enjeux de temps long, notamment avec l'environnement, avec l'éducation, qu'il nous faut traiter si on veut éviter que les populations se révoltent. Je finirai juste en faisant une observation. La productivité, qui est quand même l'un des marqueurs de progression économique, d'inclusion, n'a jamais été aussi basse depuis 60 ans. 0,8% par an selon l'OCDE. Ça, pour moi, je reprendrai la phrase de Madame Lagarde, la présidente du FMI, c'est la productivité ou la guerre. Elle a dit ça. Soit on est capable de retrouver un monde inclusif et donc de changer les préceptes qui gouvernent cette révolution digitale, soit on va au-devant de grands problèmes.
Ah, vous avez utilisé le terme de guerre, je vais revenir très vite vers Ali Laïdi, mais sur ce que vient de décrire Gilles Babinet, Cécile Renoir, est-ce que là on est dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises avec ces défauts d'inclusion, ou est-ce qu'on est dans la responsabilité politique? Et est-ce que c'est une question finalement peut-être aussi de dimension?
Après, là encore, il faudrait s'entendre sur les termes, parce que souvent, ce qu'on désigne par responsabilité sociale de l'entreprise, à mon avis, bien souvent, on ferait mieux de parler de responsabilité politique, justement, mais au sens noble du terme politique, de ce souci du bien commun, voilà, enfin, tout ce dont nous parlons actuellement, et que bien souvent, quand on parle de RSE, justement, on en fait des bonnes pratiques à côté de ce qui compte vraiment, et quelque chose qui, pour beaucoup de personnes dans les entreprises, et à commencer par la direction générale, ne pèse pas à côté d'enjeux stratégiques. Donc,
est-ce que la responsabilité sociale, ça ne serait pas d'abord et avant tout la responsabilité à l'égard des salariés et la responsabilité politique par rapport à l'écosystème, par rapport à l'environnement plus général.
Oui, mais sauf que quand on parle de RSE aujourd'hui, quand même, dans le discours des entreprises, au moins, ça se veut une perspective plus large. Mais je crois que la vraie difficulté, c'est le fait que pour l'instant, il n'y a absolument pas de convergence entre des logiques stratégiques financières et ces objectifs extra-financiers. Donc, on a une espèce de décalage énorme entre le niveau des intentions affichées et les réalisations. Et je veux dire qu'on peut se poser beaucoup de questions par rapport à la mise en œuvre effective par les grandes entreprises et par les entreprises en général des objectifs de l'accord de Paris. Ce qui fait dire à certains chercheurs qu'on a un schisme de réalité, c'est-à-dire qu'on se paye de mots d'une certaine manière en disant « oui, on y va » et qu'en réalité, nous n'en prenons pas les chemins.
Et, alors, et sur ce devoir de vigilance, pardonnez-moi, oui, juste oui. Cécile Renoir, que j'évoquais tout à l'heure, oui, qui a fait l'objet d'une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale en début d'année, devoir de vigilance pour les grandes entreprises afin qu'elles intègrent dans l'exercice de leurs activités des préoccupations supérieures touchant à l'intérêt général. Alors c'est une loi qui semble assez pionnière puisque là, elle a d'ailleurs été aussi dénoncée pour ça, c'est-à-dire ceux qui étaient contre disant bah voilà, la France est seule à mener ce combat, donc c'est pas forcément quelque chose de très efficace. Mais est-ce que ça participe de cette responsabilité politique des entreprises?
Absolument, et pour moi c'est extrêmement important justement de voir que par rapport à ces chaînes de valeur mondiales, je crois qu'ils salarient à peu près une personne sur cinq dans le monde aujourd'hui, au moins, on ne peut pas dire des entreprises multinationales qu'elles sont responsables seulement des salariés qu'elles payent. C'est-à-dire, évidemment, elles ont une responsabilité vis-à-vis des effets de leurs activités. C'est d'ailleurs la nouvelle définition, quand même tout à fait positive, par la Commission européenne depuis 2011 de la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est responsabilité à l'égard des impacts, donc au long des chaînes de valeur. Alors, cette loi, c'est un premier pas. Alors, en même temps, c'est une obligation de moyens, pas de résultat de la part des entreprises. C'est-à-dire que ça limite quand même les choses. En plus, là encore, le Conseil constitutionnel a enlevé les pénalités qui, de toute façon, n'étaient pas très élevées. Alors, il n'empêche que ça induit quand même un mouvement d'ensemble à l'échelle internationale et que, par ailleurs, l'Équateur et l'Afrique du Sud, il y a 3 ans, ont déposé une résolution à l'ONU devant la Commission des droits de l'homme et qui a un projet de traité contraignant les entreprises en matière de droits fondamentaux qui sera discuté à Genève en octobre. Et là, on peut espérer que ça soit une étape décisive pour faire évoluer à la fois ces règles à l'échelle internationale, le droit des investissements. Donc potentiellement, ça peut vraiment avoir des effets pour justement faire en sorte que par rapport à ce qui vient d'être décrit par Gilles sur les enjeux notamment en matière d'emploi, de travail, d'activité pour les populations à travers la planète, peut-être qu'on réévalue la manière dont les entreprises se rendent davantage responsables.
De la même manière, Ali Laïdi, que les États se sont réunis à l'ONU pour normalement ne pas se faire la guerre, est-ce qu'il faut penser de la même manière la coopération entre entreprises et puis entre les entreprises et l'État et les États pour maintenir un monde plutôt pacifique et ne pas faire la guerre? Ou bien est-ce que la guerre, elle est inscrite, au contraire, justement, dans l'activité économique et que ça, c'est peut-être justement compliqué d'aller contre ça?
Alors, la guerre, au sens plus large de la polémologie, on n'a pas pensé le conflit au sein du champ économique. On l'a viré il y a 300 ans en disant que l'économie, c'était évidemment les bonnes relations entre nations et que ça, les doux mœurs dont parle Montesquieu, le doux commerce, etc. Donc ça a été viré de la pensée. Or, quand on regarde l'histoire mondiale de la guerre économique, on voit qu'elle a toujours existé. Je veux dire, je donne un tas d'exemples qui partent de la préhistoire où les récentes recherches montrent qu'il y a eu des batailles pour l'économie, parce qu'à un certain moment, les peuples se sont stabilisés, ils ont fait des stocks et ils se sont battus pour récupérer ces stocks. Et tout au long du XIVe siècle, je donne un certain nombre d'exemples sur la Hanse, vous vous rendez compte, une ligue de commerçants qui, à partir du XIIIe jusqu'au XVIe siècle, est capable de faire la guerre, de créer des blocus économiques et de décider qui prendra les trônes d'un certain nombre de pays du nord de l'Europe. Puis il y a
donc des états dans l'état, enfin,
c'est un peu complètement. Ce Puis il y a toutes les problématiques sur les compagnies des Indes. Rendez-vous compte qu'on leur a donné la possibilité, à partir de 1600, de pouvoir conquérir des territoires, de pouvoir battre monnaie dans ces territoires, de pouvoir donner justice dans ces territoires, de pouvoir avoir des soldats pour conquérir ces territoires, etc. Donc il y a une puissance et il y a toujours eu une confrontation dans le champ économique. Ça, évidemment, le libéralisme ne l'a pas pensé. Il a refusé de le penser. Ça ressurgit aujourd'hui. C'est pas un hasard si ça ressurgit. Concept de guerre économique d'un point de vue moderne au moment de la chute du mur de Berlin. Parce que les alliés n'ont plus d'ennemis politiques comme l'Union soviétique et tout à coup c'est chacun pour soi. Parce que les ressources de la Terre sont évidemment limitées. Or, il y a d'autres pays qui ont aussi envie de croquer ce morceau. Donc, il faut une réflexion sur la polémologie de l'économie de manière à pouvoir encadrer, en effet, ces entreprises et faire en sorte qu'elles ne soient pas de tels acteurs politiques qu'elles nous imposent notre avenir.
Alors, on parle beaucoup des entreprises comme acteurs ou actrices politiques. On n'a pas beaucoup parlé, finalement, de ceux qui les dirigent. Mmh. En tant qu'individus, est-ce que ce sont aussi des acteurs politiques? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que dans la logique qui est celle des temps que l'on vit, qu'un Mark Zuckerberg, par exemple, à terme, finisse par présenter sa candidature à la présidence des États-Unis?
Non, mais il n'y a même pas besoin de ça. Regardez dans la aux États-Unis sur l'Obamacare. Souvenez-vous des frères Koch, des milliardaires qui ont dépensé des centaines de millions de dollars pour empêcher la création de l'Obamacare, donc qui est la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'un simple individu, parce qu'il possède des milliards de dollars, peut agir directement sur un projet politique qui est de donner la protection sociale pour un maximum de gens aux États-Unis.
Gilles Babinet ?
Oui, il y a une pensée assez amusante d'ailleurs qui est très induite par... les parcours qu'ont la plupart des fondateurs de ces entreprises. C'est-à-dire que ces gens-là viennent du monde des mathématiques, du code, beaucoup du code. Et quand vous faites du code, vous savez, moi, j'ai fait du code quand j'étais jeune et je conseille toujours à tout le monde de faire du code parce que vous avez quelque chose qui est extrêmement logique, qui découle action-réaction. Vous faites une ligne de code, vous voyez la réaction et donc vous percevez le monde comme ça. Vous avez le sentiment que le monde est une forme de grande programmation qui d'ailleurs reprend des thèmes qui existent déjà dans le monde de la science-fiction, chez Asimov, etc. Et tout à l'heure, je vous parlais d'objectivisme, mais vous n'imaginez pas à quel point cette pensée est puissante et présente dans la vallée. C'est-à-dire une sorte de loi naturelle qui est la loi de l'efficacité. On pourrait citer Max Weber, de la puissance de la pensée protestante, où finalement on va au ciel quand on a bien travaillé. C'est tout à fait intéressant de voir ce genre de choses. Ces choses sont extrêmement présentes et induisent une vision politique extrêmement forte dans le projet. Moi je suis, si vous voulez, quand vous voyez par exemple l'école de la singularité, qui était quand même fortement impulsée par Google, c'est une école qui a une vision transhumaniste, enrantienne, comme je le disais tout à l'heure, extrêmement marquée. C'est un projet politique, ça n'est rien d'autre que ça. Eh bien, aller contre ça dans la vallée, c'est une forme de marginalisation. Si vous dites, mais ce qu'on raconte là-bas, ça n'est pas de la science, c'est des belles histoires... on vous dit, mais vous n'avez pas compris l'esprit de la vallée. C'est tout à fait intéressant. Donc, c'est partagé. Et quelque chose qui est massivement partagé et qui, finalement, ne fait pas tellement l'objet d'un débat dialectique opposable, moi, je trouve que c'est même presque au-delà du projet politique.
Voilà, qui n'a peut-être pas besoin, justement, de passer par la case de la pure politique pour se déployer. On était dans la vallée avec vous en Californie, Gilles Babinet. Que se passe-t-il en France? Et puisque je vous posais la question d'un Mark Zuckerberg, pourquoi pas un jour président des États-Unis, vous m'avez pas vraiment répondu d'ailleurs sur cette hypothèse, mais il y a peut-être pas besoin d'aller jusque-là. Est-ce que l'entreprise n'a pas déjà gagné, justement, le terrain politique? Je voudrais vous faire entendre un... petit extrait de l'intervention hier du porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, qui expliquait, enfin qui répondait à une question, on lui demandait, mais comment se fait-il qu'il y ait autant de ministres et de secrétaires d'État, ils sont 7 en tout dans le gouvernement d'Édouard Philippe, à être rattachés à un ministère, mais sans avoir de périmètre précis. Je voudrais vous faire écouter sa réponse.
Seuls les secrétaires d'État rattachés au Premier ministre ont une affectation précise. Tous les autres secrétaires d'État, et ça c'est un choix de management, sont rattachés au ministre et travaillent avec le ministre sur l'élaboration de leur feuille de route. Mais vous n'aurez pas un secrétaire d'État qui sera spécialisé sur tel ou tel sujet. C'est un vrai choix qui a été fait, de considérer qu'il y a un portage politique par le ministre délégué ou par le secrétaire d'État, parce qu'en gros c'est la même chose, mais sur l'action, sur le périmètre ministériel, qui peut amener tel secrétaire d'État à suivre un dossier industriel s'il est rattaché à Bruno Le Maire, et puis à un autre moment à travailler sur la question du commerce de proximité, du coup sans avoir de portefeuille affecté. C'est un schéma qu'avait présenté Emmanuel Macron pendant la campagne électorale, si vous vous en souvenez, pour faire en sorte que justement on soit plutôt dans une logique d'équipe autour du ministre titulaire et responsable, sous l'autorité du ministre, et ce qui permet aussi d'avoir un ministre senior et des secrétaires d'État peut-être un peu plus junior. Ma remarque vaut pour l'âge, si j'y réfléchis bien, mais elle n'a pas de sens seulement pour l'âge.
Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner. Cécile Renoir, donc technique de management, ministre senior, sous-secrétaire d'État junior. Est-ce que finalement se pose la question de savoir si alors les entreprises doivent se mêler de politique, mais l'entreprise, ça y est, elle est déjà en politique là, non ?
Mais oui, ça, je crois que là, c'est le new public management, comme on dit, c'est-à-dire l'importation des techniques de management, des techniques entrepreneuriales en politique. Alors là, on voit bien que là, quand il s'agit de mots, voilà, c'est une chose. Ensuite, quand ça se traduit dans des pratiques, et au fond, quand c'est finalement la logique de marché qui remplace la logique démocratique, ben ça pose vraiment question.
Est-ce que c'est simplement une logique de marché ? Ça peut être aussi une logique, disons, de fonctionnement et de considérer que, ben voilà, en travaillant en mode projet, puisque c'est notamment un des termes qu'on entend beaucoup, il y a une efficacité qui est plus importante et que ça peut bénéficier justement à la pratique politique.
Alors, l'efficacité en soi n'est pas une mauvaise chose, mais parler uniquement en termes de performance, de compétitivité ou autre est éminemment problématique. Et je rejoins là encore ce qui est évoqué tout à l'heure. Et le fait que, là, plutôt que de code, on pourrait aussi réfléchir au sens des humanités, de la culture partagée, de ce qu'on a envie de transmettre, de recevoir de nos traditions plurielles. Voilà.
C'est vrai que ça nous heurte un peu, nous, en France, mais absolument pas aux États-Unis, pour deux raisons. D'abord, parce qu'aux États-Unis, il y a eu toute une pensée sur ce qu'on a appelé le capital humain, à partir de Gary Becker, qui est un Nobel. C'est comment faire de vous une propre entreprise. Vous managez vous-même, etc. Et d'autre part, aux États-Unis, il y a une circulation des élites. Donc les dirigeants sont capables d'être une fois secrétaire au département, donc ministre. Ensuite, ils sont dans l'entreprise pendant 6 ans. Puis après, ils peuvent passer pendant 4 ans à l'université ou dans un think tank. Et donc, évidemment, tout ça permet de faire respirer l'ensemble du système. Et c'est absolument pas extraordinaire aux États-Unis qu'un patron devienne, et c'est ce qui se passe dans l'administration Trump, hein, le nombre de milliardaires qu'il y a dans son administration, eh ben, ils viennent avec les outils qu'ils ont utilisés pendant des années dans l'entreprise.
Avoir des chefs d'entreprise en politique, ça permet une respiration, Gilles Babinet ?
Écoutez, moi je...
Vous pourriez être ministre.
Non, je m'en félicite. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait besoin effectivement d'une respiration. Donc de ce point de vue-là, ça me fait plutôt rigoler quand j'entends ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire, ça me choque pas, pour être tout à fait franc. Ce qui, pour moi, m'importe, c'est qu'il y a une vision, un projet politique. Après, la mise en œuvre, c'est un peu de la tambouille. S'ils utilisent les modes que l'on observe dans le monde des startups, eh bien, je trouve qu'il y a... Autant je peux être très critique sur le projet politique tel qu'il est énoncé dans la vallée, autant je trouve que, de ces points de vue-là, la culture startup est plutôt intéressante. Elle induit de la transparence, de la capacité à remettre en cause la façon dont on fait fonctionner ses équipes. Mais tout cela est subordonné à la qualité du projet politique avant toute chose.
Et heureusement d'ailleurs que c'est comme ça que ça fonctionne. Ben merci beaucoup en tout cas tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Gilles Babinet, Cécile Renoir et Ali Laïdi. Vos ouvrages respectifs, je peux les rappeler. Hein, Éthique et entreprise pour Cécile Renoir aux éditions de l'Atelier. Moi qui en ai un plus récent.
L'entreprise au défi du climat.
Chez
Atelier.
Histoire mondiale de la guerre économique pour Ali Laïdi aux éditions Perrin, c'était l'an dernier. Gilles Babinet, transformation digitale, l'avènement des plateformes aux éditions Le Passeur. Merci à l'équipe du Grain, Cyril Baer, Fanny Richer, Céline Leclerc, Sarah Petitbon et Louis Fuseau. Émission réalisée par Lise-Marie Barret avec à la prise de son Yanis Joudad. Demain, peut-on climatiser les villes? C'est la question que nous poserons au moment où peut-être les températures diminueront quand même enfin.